nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je me prends parfois à imaginer les disciples se raconter entre eux les fameuses histoires de pharisiens qu'ils tenaient de leur maître Jésus-Christ, dont celle de l'évangile d'aujourd'hui, un peu à la façon dont on rapporte de nos jours des histoires belges pour se détendre un peu, pour se moquer surtout de nos voisins du Nord. Que voulez-vous ? Les disciples étaient un peu lourdeaux, ils n'étaient pas impeccables et, comme on atteste assez souvent l'évangile, ils pouvaient faire preuve de mauvais esprit. Cependant, il ne faudrait pas se méprendre dans la bouche du Seigneur Jésus lorsqu'il est question d'histoires de pharisiens et de publicains, rien à voir avec les histoires belges. Jésus ne veut jamais faire de mauvais esprit et Jésus ne condamne jamais une caste en tant que telle. Ce n'est évidemment pas à cet ensemble, ce groupe, cette secte du peuple juif qu'on appelle les pharisiens que s'en prend le Seigneur Jésus, d'abord parce que parmi eux il y avait des juifs excellents et certains d'entre eux ont été jusqu'à donner leur vie pour Jésus. Il devait beaucoup à cette caste des pharisiens. J'en veux pour preuve l'apôtre même, l'apôtre par excellence qu'est saint Paul, qui le confesse lui-même, il doit beaucoup à cette caste des pharisiens qui lui a appris l'observance, qui lui a appris l'exigence, qui lui a appris la primauté du spirituel sur le temporel et qui lui a appris par exemple à croire en l'existence des anges, en la résurrection de la chair et j'en passe. Vous voyez donc que la caste des pharisiens en tant que telle n'est pas à condamner. Certaines caractéristiques en sont excellentes et le Seigneur Jésus de toute manière ne fait pas exception de groupe. Ce qui l'intéresse, ce sont les personnes. Mais ce que le Christ réprouve dans cette parabole, comme dans toutes les autres histoires de pharisiens qu'il stigmatise, à chaque fois qu'il dit « malheur à vous les pharisiens » par exemple, ou « scribes et pharisiens », Jésus réprouve quelques tendances lourdes qui, c'est vrai, très souvent ont cours dans cette caste des pharisiens. Que voulez-vous ? La perversion des meilleurs ou la corruption des meilleurs engendre le pire. Jésus ne stigmatise pas les pharisiens, il les trouve même assez excellents, mais ce qu'il stigmatise, c'est la perversion de ces pharisiens, qui alors donne lieu à tout simplement le pire. Vous voyez, Jésus montre dans cette parabole notamment ce qu'il peut y avoir de pharisiens au fond de notre cœur. Parce que dans les paraboles, nous le savons, il y a un enseignement pérenne. Si les paraboles sont impersonnelles, c'est délibérément ce que fait le Seigneur Jésus. Il ne donne pas de prénom, il ne donne pas de circonstances exactes, de date ou de lieu. Les paraboles sont intemporelles et les paraboles sont impersonnelles, délibérément pour que chaque chrétien de chaque époque puisse se l'appliquer. Et lorsque Jésus dénonce certaines tendances lourdes des pharisiens, c'est en réalité bien sûr pour nous enseigner. C'est le petit pharisien qui gît au fond de chacun d'entre nous et qui risque bien, comme un lichen rampant, de ronger la totalité du petit arbre que nous sommes. Voilà donc ce que Jésus veut dénoncer. Il veut que nous gardions en face notre propre condition qui est très souvent pharisaïque. Cette parabole de chez Saint-Luc se trouve dans un ensemble plus vaste qui concerne la prière. C'est en fait la seule chose qui compte en définitive dans notre belle religion, la prière, la relation à Dieu. Jésus est venu parler de son Père et Jésus est venu nous apprendre comment parler à son Père. Et lorsque les apôtres, au bout de 3 années, lui demandent « Seigneur, apprenez-nous à prier », Jésus répond par le « Notre Père ». La seule chose qui importe chez nous, ce n'est pas l'observance, ce ne sont pas les lois, ce ne sont pas les périodes liturgiques, que sais-je. La seule chose qui compte, c'est la prière. C'est d'entretenir ce perpétuel dialogue amoureux avec Dieu. Alors, chez Saint-Luc, on trouve un enseignement tripartite. La parabole d'aujourd'hui est immédiatement précédée d'une autre parabole, celle de la veuve importune qui vient casser les oreilles du juge, qui vient le réveiller de jour comme de nuit. Et le juge finit par exécuter sa supplique. Pourquoi ? Parce qu'il en a ras-le-bol que cette vieille vienne lui casser les oreilles pendant la nuit. C'est évidemment la morale de cette parabole, c'est que notre prière doit être persévérante. Notre prière portera du fruit si, comme la vieille de l'Évangile, si nous sommes persévérants. Et si le juge unique est capable d'écouter cette vieille dame, alors Dieu, a fortiori qui nous aime, sera capable, si nous le lui demandons régulièrement, de nous exaucer sur tel ou tel point. Premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est la parabole d'aujourd'hui, je vais y revenir. Et le troisième volet du triptyque chez Saint-Luc sur la prière, c'est « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent ». Qu'est-ce que ce petit passage peut avoir avec la prière? Évidemment, le fait qu'il faille prier comme des enfants, c'est-à-dire avec une spontanéité, avec une simplicité, sans chercher à faire de belles phrases, sans chercher la complication et sans chercher le carcan de quelques belles prières, encore que ces prières aient leur utilité. Je viens à ce deuxième volet, qu'est la parabole du publicain et du pharisien et qui nous enseigne aujourd'hui. Quel est l'enseignement sur la prière que nous délivre le Seigneur par cette parabole? Mais cet enseignement, il est très simple. Il nous dit une seule chose, cessez de vous comparer. Quand vous priez, cessez de vous comparer. Mais c'est à moi que je prêche, mes frères. C'est pour ça que je suis un peu sec, parce que j'entends me prêcher sèchement. Je voudrais que l'abbé Baumale cesse de se comparer lorsqu'il prie. Eh oui, mes frères, même pendant cette messe, à un moment ou à un autre, je le confesse. Mais qui d'entre vous me dirait qu'il est dans une autre disposition qu'il est... Non, nous avons tous tendance à nous comparer. Et ça, cette comparaison dans l'ordre des biens spirituels, singulièrement dans l'ordre de la prière, c'est mortifère. C'est pour ça que le Seigneur veut retirer ce lichen pharisaïque, parce que c'est bien ce qu'il identifie dans la caste des pharisiens, cette tendance à se comparer. S'il y a bien une chose qui saute aux yeux lorsqu'on regarde ce pharisien qui monte au temple pour prier, c'est qu'il ne cesse de se comparer. Voyez ? Et ça plombe sa prière. Pourquoi est-ce que ça plombe sa prière ? Il commence assez joliment du reste. Tout commence bien pour ce pharisien. « Seigneur, je te rends grâce pour... » Mais c'est magnifique ! Une prière d'action de grâce, une prière de louange. Est-ce que ce n'est pas la prière qui plaît au Seigneur plus que tout ? Celle qui touche son cœur, plus encore que la prière de demande, plus que je ne sais quelle prière, la prière d'action de grâce. « Seigneur, je te rends grâce pour... » Ça commence bien. Et Dieu tend son oreille lorsque le pharisien ouvre ainsi sa prière. Malheureusement, immédiatement après, patatras, voilà que notre pharisien se compare aux autres. « Je te rends grâce de quoi ? De ce que je ne suis pas comme les autres hommes. » Mais c'est absolument terrible, c'est même incroyable. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Hop, d'un seul coup, voilà notre pharisien qui met tout le monde dans le même sac, hormis lui. Il y a moi et il y a les autres, pas quelques-uns. Il n'y a pas certains hommes qui ne seraient pas à la hauteur, Seigneur, vraiment je vous rends grâce de ne pas être comme eux. Non, tous les hommes. Seigneur, je suis le seul, je vous rends grâce d'être le seul homme juste. C'est quand même incroyable, mais c'est dans la parabole, mes frères. Vous voyez que Jésus qui lit, qui sonde les reins et les cœurs, sait très bien que nous avons cette tendance à nous croire uniques. Il y a des fausses modesties qui, de temps en temps, viennent comme atténuer cette tendance brute de décoffrage. Mais enfin, au fond de nous, gît cette tendance à nous croire uniques. À croire que nous sommes les seuls à savoir prier. Les autres sont guindés, moi je le suis moins. Ou au contraire, les autres sont laxistes, moi je suis beaucoup plus carré. Ou les autres sont trop ainsi, et moi, vous voyez, nous sommes sans cesse en train de comparer la qualité de la prière des autres à notre propre prière. Le pharisien, ça vient de Pérousim. Pérousim, ça veut dire séparé, ça veut dire mis à part. Et c'est ça que Jésus ne supporte pas, que les pharisiens se croient à part, alors qu'ils sont faits du même bois, alors qu'ils sont faits de la même pâte que le dernier des publicains. Les autres hommes, les non-juifs, que dit-il à leur propos ? Ce pharisien, il faut quand même oser, devant Dieu seul, il le dit en plus, puisque c'est au fond de son âme et non pas à voix haute, il ose dire devant Dieu, ces autres hommes, je vous rends grâce de ne pas être comme eux parce qu'ils sont rapaces, injustes et adultères. Mais quel culot ! Il ne va pas de main morte tout de même. Les autres hommes sont tous injustes, rapaces et adultères. Voyez, voilà à quoi conduit le fait de se comparer. Petit à petit, de manière vicieuse, au début, nous nous comparons sur des questions de forme, sur des questions extérieures, et petit à petit, nous nous croyons autorisés à comparer le fond de notre cœur avec le fond du cœur des autres. Ce n'est dès lors plus une simple question de comparer le voussoiement du Seigneur au tutoiement, l'agenouillement de rester debout, la tendance, disons, charismatique et la tendance traditionnaliste. C'est carrément le fond du cœur de l'homme que nous nous croyons autorisés à sonder. Mais mes frères, ce pharisien est immédiatement stigmatisé par Jésus parce que, en fait d'adultère, en fait d'injustice et en fait de vol, lui-même est-il vraiment totalement immaculé ? Quand on sait, selon ce que dit Jésus, que est adultère celui qui regarde une femme ou qui regarde un homme avec désir. Quand on sait que celui qui veut voler, quand bien même il n'aurait pas capté la chose pour la mettre dans sa poche, celui qui a l'intention de voler, mais qui malheureusement n'en a pas l'occasion, a déjà volé. Chacun d'entre nous a déjà commis ce genre de péché, je vous renvoie au décalogue, mes frères. Et ce pharisien, qui se croit exempt de ses péchés, devrait regarder le fond de son âme, au lieu que de regarder, comme toujours, la paille qui est dans l'œil de ce publicain ou du reste des hommes. Il rajoute encore une couche parce qu'il s'en prend carrément à, non pas les hommes en général, ce qui encore pourrait atténuer un petit peu la rigueur, la rudesse et l'exagération de son propos, mais il s'en prend carrément à celui qui est à côté de lui. Je vous rendrai, Seigneur, de ce que je ne sois pas comme le reste des hommes, en général, mettons, mais je vous rendrai également de ce que je ne suis pas comme ce pauvre publicain-là. Parce que moi, monsieur, je paye ma dîme. Parce que moi, monsieur, je jeûne deux fois la semaine. Qui est-il, ce pauvre publicain ? Vous savez que les publicains sont une secte de juifs. Ils sont bien juifs, mais ils ne sont pas observants. Si on veut, ce sont des cathos non pratiquants. C'est un peu étrange, je suis d'accord. Jésus ne vante pas le fait que cet homme-là soit publicain. Attention, il ne faudrait pas non plus croire que pour être dans les bonnes grâces du Seigneur Jésus, il faudrait être dans la caste la moins pratiquante, la moins observante. C'est parfois ce qu'on nous laisse à croire dans certains sermons. Pas du tout. Ce qui plaît à Jésus, c'est évidemment pas le fait que cet homme-là soit une sorte de mécréant. Ce qui lui plaît, c'est le fond de son cœur. Ce qui lui plaît, c'est la conversion qu'il est en train d'opérer parce que lui ne se compare pas. Le publicain est face à Dieu seul. Il ne lève même pas les yeux, ni vers le ciel, ni même autour de lui. Vous l'aurez sans doute remarqué dans cette parabole. Il ne regarde pas cet homme du premier rang, pas même pour dire « Seigneur, je vous rends grâce de cet exemple que vous me donnez par ce pharisien ». Peut-être aurait-il pu dire cela, ça aurait été noble et généreux, même pas. On ne se compare pas non plus dans ce sens-là. « Merci Seigneur de m'avoir donné telle ou telle personne à côté de moi pour me porter, pour me... » Parfois on peut se permettre ce genre d'action de grâce, mais tout de suite revenons à notre propre cas. Et à se face à face avec Dieu. Parce qu'il y a toujours le danger, quand on commence par vanter notre prochain, vous savez, par une sorte d'effet de balancier, par, après avoir loué le Seigneur pour la qualité de cette personne qui est à côté de moi, et petit à petit, on en vient à déceler ses défauts et à stigmatiser ses défauts devant le Seigneur. Nous nous connaissons bien, l'homme est rusé, vous voyez, et tout en évidemment donnant des gages à Dieu de sa reconnaissance, et vraiment, et petit à petit, l'autre lui paraît insupportable, et il se compare, et là vraiment, pour le pire, quant à ce qui concerne son prochain. Mes frères, voyez donc que se comparer n'a aucun intérêt. Se comparer n'est que danger. D'ailleurs, ce pauvre pharisien, en réalité, ne prie pas Dieu. Que demande-t-il à Dieu ? Que dit-il de vraiment personnel à ce Dieu ? Le publicain, lui, prie Dieu. « Mon Dieu, pardonnez-moi, je suis un pécheur, je compte sur votre grâce. » Voilà un vrai dialogue constructif. Voilà. Il parle avec son Dieu, cœur à cœur. Que fait le pharisien ? Quelle est la demande que formule ce pharisien à l'égard de Dieu ? Quelle est la réelle action de grâce ? Quel est le vrai dialogue que le pharisien fait à l'égard de Dieu ? Aucun. En fait, ce qu'il adore, ce qu'il vénère, ce qu'il prie dans sa propre prière, c'est rien d'autre que lui-même, exalté comme une sorte d'idole. En fait, action de grâce, je vous loue Seigneur, je vous rends grâce pour, tu parles, c'est lui qu'il vante. Et sa capacité à rester quelqu'un d'honnête, quelqu'un de juste, quelqu'un d'observant. Vous voyez, se comparer, encore une fois, est, mes frères, le lichen de l'âme. Et il faut, plus que tout, chercher à ne regarder que Dieu seul. Et cela n'enlève pas la dimension sociale, la dimension communautaire de ce corps mystique que nous formons, notamment à la messe, Mais il faut toujours prendre garde de ne pas, encore une fois, jauger des personnes qui sont à côté de nous. Une seule chose importe, Dieu et sa volonté sur moi. Que voulez-vous de moi, Seigneur ? Alors, après seulement, je pourrai m'occuper des autres. Mais pas pendant la prière, pas lorsque je m'entretiens avec Dieu et que seul à seul, j'aimerais qu'il me dise ce qui convient pour moi. Voilà ce que je voulais brièvement vous dire en ce milieu d'été. Je sais que vous avez déjà une lourde charge sur les épaules, celle de lire quotidiennement l'Écriture, l'Évangile. Je suis sûr que vous avez tiré parti de cette petite homélie de début des vacances et que désormais vous êtes passé maître en exégèse, en commentaire de l'Écriture. Eh bien, ajoutez encore à cela, dans votre prière, je sais, à la fois large, féconde, généreuse, pendant ces vacances, eh bien, le fait de ne pas vous comparer. Voyez, nous sommes en pleine période estivale et sur les plages, vous voyez, cette saison, on se compare. Qui sera le plus bronzé, qui sera le plus fort, qui sera le plus svelte, qui sera là, plus. Tout ce que je mets au masculin peut aussi décliner au féminin. Alors, nous en rions lorsqu'il s'agit de cela sur la plage, mais lorsqu'il s'agit de cela dans l'église ou dans le fond de notre coin prière, c'est plus grave, mes frères. Et il faut vraiment veiller à ce que le Saint-Esprit purifie nos cœurs là-dessus. Pas de comparaison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.